Le Maghreb décrypté avec Hasnia Abidi.
Merci de nous rejoindre sur Radio Orient. Nadia Bencher avec vous pour ce nouvel épisode du Maghreb décrypté où nous parlerons processus de Barcelone qui célèbre cette année ses 30 ans. Novembre 1995, 5 ans après la fin de la guerre froide, alors que les accords d'Oslo nourrissent encore l'espoir de paix au Proche-Orient, les pays d'Europe et de la Méditerranée se retrouvent pour lancer un pari inédit, faire de la Méditerranée un espace partagé de paix, de prospérité et de dialogue entre les sociétés. Autour de la table, les 15 de l'Union européenne à l'époque et 12 pays du sud et de l'est de la Méditerranée, dont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. De cette conférence naît le processus de Barcelone avec trois grands axes, la stabilité politique et la sécurité, le développement économique et la création d'une zone de libre-échange et enfin le rapprochement entre les peuples par la culture, l'éducation, la mobilité. 30 ans plus tard, que reste-t-il de cette ambition? Qu'est-ce que ce processus a concrètement changé pour le Maghreb et pour l'Union européenne? Et comment cette relation a évolué au fil des élargissements de l'UE, des accords d'association, des crises régionales? Dans cette première partie, on reviendra sur la naissance du processus de Barcelone, sa logique et la place qu'il a donnée aux pays du Maghreb dans le partenariat euro-méditerranéen. On en parle avec Hasnia Abidi. Merci d'être avec nous.
Bonjour Nadia Bachir.
Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe et directeur du Centre d'études sur le monde arabe et méditerranéen. Évoquons d'abord le contexte historique en 1995, quand les ministres des Affaires étrangères se retrouvent à Barcelone. Quelle est l'atmosphère politique de l'époque des deux côtés de la Méditerranée?
L'atmosphère le 27 et le 28 novembre, elle était très positive parce que avant la tenue de la conférence de Barcelone, puisque la ville de Barcelone a reçu cette conférence très importante, et donc la semaine prochaine, on aura exactement 30 ans après le lancement. 30 ans, c'est jeune et c'est beaucoup parce que, vous savez, un processus euro-méditerranéen est tout de même une opération très délicate. Elle est délicate pourquoi? Parce qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Il y a un processus d'Oslo, la conférence de Madrid aussi, qui a pour la première fois lancé un processus de paix à Madrid, épaulé par le président George Bush, et avec les Palestiniens et les Israéliens. Et donc, cette idée donc, de boycotter Israël n'avait plus de raison d'être, et c'est ça l'avantage pour le processus euro-méditerranéen. Il faut rappeler aussi que l'Europe avait poussé vers l'Est au détriment du Sud, c'est-à-dire l'entrée dans l'Union européenne de plusieurs États à l'Est, mais aussi l'Espagne et le Portugal qui sont déjà rentrés et qui est concurrencier finalement certains produits agricoles des pays du Sud. Et le Sud reproche à l'Europe d'avoir beaucoup fait pour l'Est et pas pour le Sud. Il y a un autre élément qu'il ne faudrait pas oublier aussi, c'est que l'Algérie, pendant cette période, était dans ce qu'on appelle la décennie noire. Il y avait plusieurs craintes. L'Europe craignait finalement l'installation d'un régime islamiste ou bien sûr des vagues migratoires. Il fallait, pour l'Union européenne, faire quelque chose pour rassurer les pays du Sud et pour construire une nouvelle relation avec ses voisins du Sud.
Justement, qu'est-ce qui a poussé l'UE et les pays du Sud, notamment le Maghreb, à imaginer un processus de Barcelone plutôt qu'un simple accord commercial de plus?
Oui, c'est vrai que c'est une initiative qui est très ambitieuse parce que les ministres des Affaires étrangères des deux rives de la Méditerranée se sont réunis plusieurs fois. Et évidemment, l'ambition de l'Union européenne surtout, c'était de s'inspirer d'un autre processus qui a donné des fruits, qui a donné de bons résultats. C'est le processus de Helsinki qui a été lancé en 1975. Le processus de Helsinki a permis aux pays de l'Est donc de rejoindre finalement l'Union européenne ou de moderniser leur infrastructure, mais aussi de mettre au diapason la société civile. C'était un processus qui réussit sur tous les niveaux. Et d'ailleurs, le processus Euromed reprend les mêmes corbeilles. Le processus d'Helsinki, c'est trois corbeilles, sécuritaire, économique et culturelle ou humaine. Et bien le processus d'Euromed, c'est bien sûr la même chose. Donc l'Europe était ambitieuse. Elle voulait vraiment offrir ou s'offrir un partenariat, un cadre de coopération ambitieux, évolutif et dans lequel on peut parler de plusieurs dossiers. Mais encore une fois, parce qu'il y avait quand même un environnement positif dû au lancement du processus de paix qui a poussé les pays méditerranéens, sud-méditerranéens et nord-méditerranéens à aller de l'avant.
Alors, côté européen, quels sont les objectifs stratégiques ? On parle de stabilité au sud, de prévention des conflits, de gestion des flux migratoires, d'ouverture des marchés. Si on devait hiérarchiser ces motivations, qu'est-ce qui domine vraiment à ce moment-là ?
Trois objectifs. Les trois étaient dominants, étaient prioritaires. Les pays du Sud ont beaucoup insisté sur la question économique, qui est très importante, parce qu'il y a un gap et un fossé entre les pays du Sud et les pays du Nord sur le plan de développement, sur le plan économique. Plusieurs investissements sont partis dans les pays de l'Est au détriment des pays du Sud. L'ouverture du marché se fait aussi au détriment des pays du Sud, notamment dans les produits agricoles au Maroc et produits textiles aussi. Il faut rappeler cette période, la Tunisie était comme un fleuron en matière donc, d'industrie textile. Donc les pays du Sud ont insisté pour que l'économie soit un pilier central. Les Européens, on voit bien l'aspect sécuritaire, la question migratoire, la question des turbulences dans cette région. Il faut rappeler que la Libye était exclue parce que c'était à cause de l'attentat de Lockerbie et les sanctions internationales qui pesaient sur la Libye. L'aspect sécuritaire est très important, c'est pourquoi le premier pacte, c'est le pacte plutôt sécuritaire, c'est la corbeille sécuritaire, c'est-à-dire une charte commune, c'est-à-dire un espace de sécurité entre les deux pays. La deuxième priorité, mais elle est aussi importante, donc c'est l'économie. Les pays du Nord et du Sud étaient tellement ambitieux qu'ils avaient imaginé, en 1995, ils avaient imaginé à l'époque une zone de libre-échange, donc ce qu'on appelle la prospérité commune, d'ici 10 ans, c'est-à-dire en 2005. Hélas, on est en 2025 et cette zone n'a pas eu lieu. Le troisième cadre, c'est le cadre culturel, c'est-à-dire la lutte contre les stéréotypes et les clichés, mais aussi le dialogue des cultures, l'élément culturel. Donc on peut dire que les trois pactes étaient prioritaires pour l'Union européenne, mais aussi pour les pays sud-méditerranéens.
Une fois cette convergence d'intérêts posée, il faut regarder comment Barcelone s'organise concrètement, parce que l'architecture du processus va beaucoup compter pour la suite. On résume souvent Barcelone à trois paniers, politique et sécurité, économie et finance, sociale et culturelle. Que recouvre concrètement chacun de ces volets ? En quoi cette approche était innovante pour l'époque ?
Elle était innovante parce que pour la première fois, on parlait des questions de droits de l'homme. Dans le troisième panier ou la troisième corbeille, on évoque certes les questions humaines, mais aussi il y a les questions de droits de l'homme. Il y a les questions de la société civile. Ça, c'est un élément novateur dans les relations entre l'Europe et la Méditerranée. Il faut rappeler que les relations qui dominaient le nord et le sud de la Méditerranée, il y avait un seul élément, c'était les accords d'association qui datent déjà des années 60. Et donc, pour la première fois, on a posé vraiment un nouveau cadre qui est large et qui est global et bien sûr ambitieux puisqu'il est tourné vers l'avenir. Donc, la première question, c'était la question de la coopération sécuritaire et aussi le soutien aux efforts des États du Sud. En même temps, vous savez, les pays du Sud, certains des pays du Sud, ont accepté cette idée, ils l'ont même défendue, parce que c'est une forme de légitimation pour les régimes de l'époque. Et il faut être certains régimes qui étaient tout de même contestés par une partie de la population. Le président de Ben Ali, aussi le président algérien, la Libye, elle était d'office exclue. Et donc, pour tout système politique, être partenaire du Nord, c'est très important. Pour le Maroc, c'est tout autre chose. C'est plutôt, le Maroc avait déjà un statut qui est plus avancé, des négociations plus avancées que ses voisins. Mais ce qui l'intéressait, c'est l'économie. C'est l'ouverture du marché européen, une collaboration inconditionnelle avec l'Europe. Et c'est pourquoi l'Union européenne, bien sûr, le qualifie toujours le bon élève, en quelque sorte, mais aussi avec la Tunisie. Donc ce qui a poussé, c'est la question économique très importante pour les Sud. Mais il faut dire que la motivation principale des pays du Nord, c'est d'ordre sécuritaire.
Sur le papier, Hassan Abidi, on parle de copropriété, de responsabilité partagée. Dans les faits, dès le départ, est-ce qu'on est vraiment dans un partenariat d'égal à égal ou bien dans une relation très asymétrique entre une Union européenne structurée et des pays du Sud beaucoup plus fragiles?
Oui, deux critiques ont émergé au lendemain du lancement du processus. D'abord, les pays européens viennent négocier unis sous le label de l'Union européenne, alors que les pays du Sud sont dispersés. L'Europe négocie en position de force face aux pays du Sud. Et donc, il fallait normalement négocier une position commune. Ça n'a pas été le cas. Donc, la méthode, déjà, dès le départ, elle n'est pas en faveur des pays du Sud. Le deuxième élément, c'est que les pays du Sud reprochent souvent aux pays du Nord d'être le laboratoire de nouvelles idées venant du Nord. On reproche à l'Union européenne d'expérimenter en quelque sorte ce processus méditerranéen comme ils ont expérimenté le processus Helsinki du pays de l'Est. Mais en même temps, les pays du Sud portent une certaine responsabilité, c'est qu'ils ne sont jamais venus avec une idée, avec une initiative en quelque sorte pour renouveler la relation avec les pays du Nord. Le dernier élément, il est d'ordre économique. C'est vrai que face, je dirais pas la menace, mais les Européens avaient cet élément économique et financier, puisque l'Union européenne, le processus de Barcelone a instauré ce qu'on appelle le programme MEDA. C'est des aides économiques, des prêts, où toutes les institutions financières européennes sont impliquées. Mais évidemment, ces instruments financiers, ils étaient beaucoup en dessous à l'époque. Déjà, on parlait de entre 1 et 3 milliards de dollars. C'est très peu pour la relance du processus euro-méditerranéen sur le plan économique.
À l'origine, Hassan Abidi, l'objectif affiché, c'est une grande zone de libre-échange euro-méditerranéenne à l'horizon 2010, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Comment cette promesse est-elle perçue au Maghreb? Est-ce que l'on y voit une opportunité de modernisation et d'attraction d'investissement ou bien déjà une source de crainte pour l'industrie locale?
Vous savez, d'abord, le processus de Barcelone, le processus Euromed, souffrait d'une chose, c'est qu'il n'est pas très connu par la population. Il n'est pas populaire, il n'est pas démocratique, en quelque sorte. Qu'est-ce qui l'a conduit, finalement, ce que le peuple se dise? Si vous faites un micro-trottoir et vous demandez aux gens à Marseille ou d'aller, par exemple, dans une ville au Maroc ou en Algérie pour dire c'est quoi le processus Barcelone, ben, les gens, peut-être, ils vont penser à l'équipe de Barcelone du football beaucoup plus qu'au processus euro-méditerranéen. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que les pays du Sud et du Nord n'ont pas réussi, finalement, à donner une assise populaire de ce processus de Barcelone. Alors que la troisième corbeille, elle est destinée justement à la fin du cliché, aussi à la question de mobilité. Les pays du Sud ont insisté pour dire la mobilité humaine et pas la question de la lutte contre l'immigration clandestine. Donc je dirais que c'est finalement le processus euro-méditerranéen est devenu un processus de négociation comme les accords d'association. Il y avait certaines conséquences qui étaient difficile à supporter pour l'économie, notamment tunisienne qui a beaucoup souffert. L'Algérie n'avait pas encore avancé dans ses négociations dans le cadre de l'association. On peut dire qu'il y avait une certaine stagnation de ce processus euro-méditerranéen qui a d'ailleurs motivé plusieurs chefs d'État, et notamment à l'époque le président Sarkozy, de lancer une autre initiative qui est une relance, et évidemment en raison des difficultés très importantes. On oublie aussi, il y a des divergences au Sud, mais il y a des divergences notamment entre l'Allemagne et la France concernant aussi l'orientation à donner à ce processus euro-méditerranéen.
Pour finir, Hassan Abidi, rapidement, sur ces premières années, si on devait choisir un mot clé pour décrire l'état d'esprit à Rabat, Alger et Tunis vis-à-vis de Barcelone, ce serait lequel ?
C'est un processus qui est très utile d'abord parce qu'il a permis aux pays du Sud de se familiariser, ceux qui n'ont pas adhéré encore à l'OMC, c'est un bon exercice. Les initiateurs de processus euro-méditerranéen voulaient absolument arriver avec ces pays-là à une libéralisation de leur économie, à une modernisation de leur économie. L'Algérie, elle est encore loin, notamment, par exemple, question de la monnaie, question aussi des investissements, etc. Mais il faut dire que le Maroc et la Tunisie ont pleinement bénéficié. On oublie un autre pays qui, pour l'Europe, fait partie de ce processus qui est l'Égypte, la Jordanie, ont pleinement bénéficié. Donc, c'était un processus utile et c'était une initiative, à mon avis, qui appelait à se développer. Et la suite, justement, nous dira comment, finalement, les pays européens réfléchissent à une nouvelle offre de ce processus.
On voit donc se mettre en place à partir de Barcelone une relation structurée, encadrée par des accords d'association et des promesses de libre-échange. Dans la deuxième partie, la semaine prochaine, on va s'interroger sur ce que cette relation a vraiment produit, qui y a gagné, qui y a perdu et comment cette relation a changé de nature en 30 ans. Merci Hasni Abidi d'avoir répondu à nos questions.
Merci Nadia Benchir.
Vous êtes, je le rappelle, politologue, spécialiste du monde arabe et directeur du CERMA, le Centre d'études sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Cette émission est à écouter sur notre site radioorient.com ainsi que Spotify. Merci de nous suivre et excellente suite de programme.
C'était le Maghreb décrypté avec Hasni Abidi.